Bonjour et bienvenue, c'est le meilleur de la bande originale avec Leïla Kadroboudadi, Daniel Morin, Tom Villa, l'humeur de Marina Rollman et l'info maltraitée par Tanguy Pastureau. Au programme aujourd'hui, Charlotte de Turckheim, la bande originale d'Eddie Mitchell et en live Moriarty, le meilleur de la bande originale. C'est parti. Ça va Charlotte?
Oui, ça va très bien.
Ravi de vous accueillir. Vous jouez jusqu'au 30 décembre.
31 même.
C'est vrai carrément?
Sur scène le 31.
Ok, très bien.
Le rêve pour un acteur.
Dans un très bel endroit, la Nouvelle-Ève. Oh.
Vous jouez donc une journée chez ma mère, la Nouvelle-Ève, à Paris. Ce spectacle, vous l'aviez déjà donné il y a quelques temps.
Exactement. Il y a quelques temps, il y a 20 ans. Même.
C'est ça? C'est pile 20 ans, c'est vraiment le 20e anniversaire?
Non, ça fait 25 ans même, je crois.
Non.
Ah oui, oui, oui.
Genre, en fait,
pas cette tête-là, c'est poli quand même.
Ouais. Ouais. Désagréable.
Non, non, désagréable. C'est pas ça, c'est que ça ouais. me semblait pas.
Non, si c'est longtemps. Pas vrai. Si, si, si.
92?
Si. Ben, je sais pas, moi, je me rends compte par rapport à l'âge de mes enfants. Si, si, c'est ça.
D'accord, très bien. Donc, vous retournez chez votre...
Je retourne chez ma mère, 25. Bon, voilà, c'est ça. Mais 20 ans après, c'est un chiffre plus joli à dire. Sur une,
mais justement, mais quand vous dites que le spectacle s'appelle Une journée chez ma mère, on a l'impression que c'est le même texte, que c'est la
bien,
reprise d'un spectacle, et ce n'est pas le cas.
Eh bien, non,
alors
ce n'est pas
pourquoi ne pas l'avoir appelé « Je retourne
eh ben parce que
chez
je crois
ma mère
que, ou... ben ». Parce qu'en fait, c'était trop tard pour imprimer les dossiers de presse.
Non.
On avait mis le retour.
Ce qui est bien, c'est qu'elle n'a aucun filtre, ah Charlotte Turckheim. C'est-à-dire qu'elle dit la vérité. Elle dit,
exactement.
Et derrière, pourquoi t'as dit ça à la radio?
Non, mais il vaut mieux, je sais que quelquefois.
Il faut toujours dire la vérité.
Il vaut mieux dire
non,
la vérité.
Toujours.
Parce que là, regardez, sinon on passe pour des cons. Déjà, on passe pour des cons.
Pourquoi?
Parce que vous me dites, bah alors vous n'êtes pas foulé, vous avez fait le même texte.
Non,
alors, en plus, dit... nous, on oublie de mettre le retour, la suite.
J'ai
sur
pas dit ça.
Presse.
J'ai pas dit ça. J'ai dit que.
Si, vous l'avez dit, vous l'avez pensé vite.
Mais non.
C'est pas foulé quand même.
Si, si, si.
Il l'a dit avant l'émission.
Je l'ai entendu à travers la porte.
Si Jean-Jacques Goldman sort une chanson maintenant qui s'appelle Quand la musique
oh non,
est bonne,
pitié.
On se dira c'est la même. Mais si elle est différente, pourquoi il a pris.
Oui, mais si sur le dossier de presse, Goldman, il a mis la musique est bonne,
retour.
La suite ou le retour.
Non, parce que Goldman est un vrai professionnel, il ne va pas se tromper comme ça, lui. C'est ça.
Eh ben nous, on est des tocards.
Et c'est un.
Si, si, mais on le revendique.
Et paradoxalement, malgré le nombre de personnages dans cette pièce de théâtre, car c'est une pièce de théâtre, c'est même un scénario de film, oui, malgré le nombre de personnes, vous êtes seul.
Oui. Et bien ça aussi, je vais vous dire la vérité, je regrette. J'ai été con. J'aurais mieux fait de prendre un micro, 3-20 et faire du stand-up comme tout le monde. Parce que là, effectivement,
c'est crevant.
Mais c'est épuisant. Et puis en plus, je fais un chien, mais quelle idée. Et donc, c'est absolument crevant parce que, en fait, je fais une pièce de théâtre à moi toute seule.
Mais oui, c'est ça.
Mais c'est ridicule.
Donc, vous faites votre mère, vous faites vous faites la bonne,
voilà.
Vous faites le chien,
l'ambulancier,
l'huissier.
Je fais le voisin, je fais l'huissier.
Le maître.
Voilà, je fais Clémentine de Marseille.
Helmut.
Voilà, Helmut et
Gunther. Non, Gunther.
Gunther, oui, Gunther.
Gunther, pourquoi tu appelles Helmut?
Les clichés, les pensifs, ils s'appellent tous Helmut.
C'est bien parce qu'il n'y a pas que des
bières comme
ça. Moi, je suis une tocarde. Elle aussi, elle s'est pas payée en dossier de presse.
Bah, nous les premiers, puisqu'on vous invite.
Donc, je vous ai vu.
L'idée.
Mais c'est encore pire, elle m'a dit. Ah non, mais moi, je vous ai vu. Vous êtes une double tocarde.
Double tocarde.
Vous me dites, non, il s'appelle Helmut.
Il est allemand, quoi.
Il est allemand.
Vous êtes pardonné.
Il sent mauvais dans la pièce. Ça sent mauvais.
C'est
la totale. Mais l'idée, c'est donc vous retournez chez votre maman, sauf que maintenant vous êtes grand-mère.
Voilà,
ce qui est la réalité aussi de votre
vie. Merci
à
nouveau de le préciser.
Mais puisque Julia. Mais non, mais il se trouve que votre fille est connue en plus. Donc on sait ce qui se passe. Et les heureux événements ont chaque fois été salués par la presse
People.
Donc Charlotte, vous retournez passer une journée chez votre mère et les choses n'ont pas beaucoup changé.
Alors en fait, la base de l'histoire n'a pas changé. C'est-à-dire qu'effectivement, au bout de un quart d'heure, on découvre un avis d'huissier qui n'a pas été ouvert.
Non, une fuite d'eau d'abord.
Ah, une fuite d'eau d'abord qui inonde complètement la cave. Parce que j'ai eu ça véritablement chez nous. Un jour, la salle de bain est tombée dans la cuisine. C'est assez impressionnant quand même.
Sachant qu'elle n'était pas donc au même étage. Il y a vraiment eu.
Oui,
bien observé.
Transversé.
C'est une maquette qui n'a
pas rien caché. On n'a pas reçu les plans de sa maison, donc on ne sait pas très bien comment c'est fait. Donc ça a transversé le plancher.
Ah, oui, ça a transversé le plancher. Après, on mettait des étais parce qu'il fallait.
Reconstruire la maison.
Il fallait soutenir le plancher de la salle de bain.
C'est pour s'amuser avec l'aristocratie aussi, tout ça. C'est pour dire on a beau être un de quelque chose. Ça ne veut pas dire qu'on roule sur l'or. On peut être à découvert, ce qui est le cas dans la pièce de théâtre aussi.
Absolument. En fait, je crois que c'était aussi pour rendre rendre hommage à ma petite maman et à travers ma mère, en fait, à toutes les femmes qui se retrouvent à élever des enfants toutes seules et à galérer, qu'on soit aristo ou pas aristo. Je pense que c'est quand même des situations qui sont assez compliquées et moi j'ai trouvé ça évidemment rigolo de le faire avec
des humains. C'est très rigolo avec des clichés, j'ai envie de dire, et puis il y en a qui en prennent plein les dents, hein, c'est-à-dire que ce soit les Allemands, les Portugais,
les bourgeois, les racistes. Ah non, les Portugais, au contraire, moi je trouve que c'est
Lydia. Elle reçoit un peu quand même.
Ah non, celle qui dit, celle qui vraiment, celle qui est la conne absolue, c'est Anne-Marie.
Oui, non mais d'accord.
Elle dit, le Portugal.
Elle est pas fut-fut non plus.
Ah, moi je trouve que, je suis pas d'accord avec
vous. Ah bon, d'accord.
Moi je trouve que Lydia, c'est elle qui tient la maison, qui tient la baraque, qui fait que tout ça tient debout. Celle qui dit.
Et c'est elle qui se rend compte que les autres sont fous aussi. C'est le repère.
Voilà,
on ne fait pas ça, on ne met pas un tapis en poil de chèvre ou de biche ou je sais pas trop quoi
on ne met pas une descente de lit en poil de chèvre à bouillir à 90 en machine.
Voilà.
Très bien. Elle, c'est la.
Enfin, c'est quand même qui l'a offert cette descente de lit. C'est ce qui n'arrangeait pas non plus le personnage.
Oui, mais celle qui dit le Portugal, c'est sauvagement pauvre, c'est tout ce qu'on adore. C'est complètement dans son jus. C'est Anne-Marie. Et quand elle dit, tu verrais les maisons délabrées jusque ce qu'il faut. Mais c'est ravissant. Ah non, Béatrice, la misère, quand c'est bien fait, ça a de la gueule. Hein. ça, c'est Anne-Marie. Mais comment. Non, au contraire. Moi,
le personnage très attachant, c'est celui de la mère, qui se débat contre les éléments, qui est assez naïve d'une certaine façon, qui respecte les codes de l'aristocratie et qui en même temps se retrouve coincée, qui n'en a pas les moyens.
Oui, et puis qui en même temps aussi est assez. Moi, ce que j'aime bien dans ce personnage, c'est que elle est, quand elle dit à partir de 75 ans, on devrait faire que des choses amusantes, rebellons-nous. En même temps, elle est assez border, elle va bomber les plaques de rue.
Pour que l'huissier ne retrouve pas la rue pour venir s'asseoir à la table.
Ça, c'est génial, c'est une très très bonne idée. C'est-à-dire que je ne sais pas si vous avez le droit d'ailleurs de faire ça dans la pièce, légalement.
Non, pas du tout.
D'expliquer comment éviter que les huissiers viennent saisir à la maison quand on est à découvert à la banque.
Oui, quand elle change le numéro de notre plaque de rue et qu'elle va la mettre sur la porte de la voisine, c'est quand même.
Non, c'est pas ça. C'est le numéro. Non, c'est le numéro. Elle bombe la plaque de rue.
Elle fait deux choses.
Elle change le numéro.
Elle prend le numéro de
sa
porte. Voilà. Elle va le mettre sur le numéro.
Et elle va taguer le numéro de la rue.
Et ensuite, elle va
taguer le nom de la rue.
Voilà, taguer le nom de la rue.
D'accord. Excusez-moi, je voudrais que les choses soient claires.
Ah, quelque chose de clair. Et si vous voulez arrêter de toute façon une procédure d'impôt, je vous le dis, c'est très simple. Si vous devez par exemple 800 euros, vous envoyez 20 euros. Voilà.
Et la procédure s'arrête.
Non, ça s'arrête pas, mais c'est reporté à dans 6 mois.
Oui, parce que vous avez fait un paiement quand même.
Il y a une très bonne. C'est Anne-Marie.
Mais ça, c'est très service public.
Des conseils pratiques.
Ah non, mais c'est pas illégal de faire ça. Non. C'est juste que ça retarde le truc. Non,
c'est l'optimisation.
Il y a une situation avec justement cette Anne-Marie qui reçoit un tout petit peu, puisqu'elle est.
Ah oui, elle reçoit bien.
Elle reçoit bien. Oui, qui arrive, donc l'aristo de service, qui a tous les clichés, et qui dit mais que faites-vous? On déplace les meubles parce qu'il y a les huissiers qui viennent pour saisir, je dois de l'argent. Mon Dieu, quelle horreur, mais je vais t'aider, c'est gentil, si tu as 500 euros, non, je vais t'aider à déplacer l'armoire. elle est un peu rapia quand même.
Oui, elle est un peu rapia. Est-ce qu'on lui a rajouté aussi maintenant, dans cette version-là, parce que, évidemment, dans cette nouvelle version, on a fait évoluer les personnages avec la vie d'aujourd'hui, puis on leur a rajouté aussi des petits trucs. Et ce qui nous a plu avec Bruno, c'est qu'on lui a rajouté...
Bruno Gassio, qui est
avec
auteur.
Bruno Gassio, pardon. On lui a rajouté à Anne-Marie un côté un peu cul, quand même.
Ah oui.
Ça, c'est vrai, hein
oui.
Ce qui est très surprenant de la part de Bruno, d'ailleurs, parce que c'est plutôt une question à laquelle souvent.
La réputation qu'il a.
C'est assez étonnant. Il y a quand même des vannes à propos d'actualité, pardon, des vannes qui sont faites sur ce qui se passe à la télé, des vannes sur Hanouna, Cordula, si ma mémoire est bonne, il y a des vannes sur un peu Mélenchon aussi qui est cité. Il y a des noms comme ça qui font vraiment que là on se situe en 2017.
Bah oui, parce qu'ils réagissent forcément.
Il fallait
des références. Et quand Clémentine, c'est vrai qu'elle dit, quand l'huissier lui dit, tiens, c'est bizarre, il y a des ronds sans poussière, là, qu'est-ce qu'il y avait? Des bougeoirs, des chandeliers. Elle répond, non, c'est la poussière qui tombe comme ça, joliment. Depuis que Macron est président, la poussière tombe joliment.
Ça s'appelle Une journée chez ma mère. C'est jusqu'au 31 donc, décembre, à la Nouvelle-Ève, à Paris. J'espère, Tom Villa, que vous avez compris pourquoi Charlotte de Turckheim était notre invitée.
Bah oui, vous venez de le dire pour la pièce Une journée chez ma mère. Charlotte de Turckheim. Je crois que c'est la première fois que je vois une noble humoriste. Enfin, il y a bien Philippe de Villiers, mais bon. L'humour d'extrême droite. C'est une niche.
C'est pas les mêmes vannes.
Non, au moins, il se pose pas la question, est-ce qu'on peut rire de tout? Oui, bien sûr. Hein. On peut faire des blagues racistes? Oui, c'est recommandé. Antisémite? Si c'est dans le cadre de la loi? Oui, bien sûr. Non, je dis une connerie. Il y a aussi dans les nobles, dans l'humour, il y a le comte de Boudherbala.
Ah oui, c'est vrai.
Alors, je l'aime beaucoup, mais je crois qu'il faudrait quand même vérifier son titre de noblesse. Hein. En tout cas, Robert Ménard est sur le coup. Et votre destin, Charlotte, est fascinant. On est dans une famille noble, vendeuse, prof de français, puis de théâtre. Le premier One Man écrit avec Coluche. Et puis, il y a eu une relation avec Jean-Christophe Cambadélis. Donc, on voit dès le départ que vous avez une attirance pour les mecs marrants. Et quand on voit votre parcours, on peut pas s'empêcher d'avoir des idées reçues. Voilà, ce spectacle est bourré de clichés, d'idées reçues. C'est très bête, mais c'est comme ça. Voilà, c'est une noble humoriste. Ça rentre pas dans les cases, donc on a des préjugés. Voilà, c'est un peu comme un taxi qui prend le trajet le plus court. C'est pas habituel. Après, on a des idées reçues et des clichés sur tout le monde. Prenez par exemple Nagui.
Allez.
Non, c'est pas un bon exemple. C'est pas un bon exemple. Non, c'est pas un bon exemple. Non, mais par exemple, en vrai, Nagui, ouais. Il déteste la musique. Taratata, une opportunité. Vraiment. Non, mais si on passe en revue l'équipe, tiens, Daniel Morin. Daniel, hors antenne, il est très sympa. En fait, il joue un personnage et il le joue très bien. Alors que dans les coulisses, c'est vrai, il est toujours très prévenant. Bon, parfois, il a du mal à décrocher de son perso. Parfois, bon, c'est vrai qu'il me dit pas bonjour, mais bon, je pense que c'est un pudique. Daniel, c'est un gentleman.
Il est timide. Hein.
Mais oui, et c'est un gentleman, il ouvre et il tient toujours la porte aux dames. Bon, le problème, c'est que c'est aux toilettes. Mais, c'est bon.
Daniel, c'est un mec bien. La porte.
Faut le dire, stop aux préjugés. Par exemple, on a plein d'idées reçues. Leïla, sous ses airs d'ancienne prof de lettres classiques, et je sais écrire le grec ancien, et j'anime les victoires de la musique classique, et j'ai lu l'intégralité des œuvres de Dostoïevski en russe pour pas qu'il y ait de problème de traduction. Et ben, détrompez-vous. Elle n'est pas si intelligente que ça. En vrai, c'est pire. Hein, voilà, elle est beaucoup plus intelligente, mais avec nous, elle essaie de se mettre à notre niveau. En fait, Leïla, c'est de l'humanitaire qu'elle fait tous les jours. Après, il y a Guillermo Guise, qui est notre humoriste belge, qui n'est pas là ce matin, mais qui est notre belge préféré. Voilà. Après, Jacques Brel et Marc Dutroux, bien entendu.
Oh,
pile
non.
Entre les deux, d'ailleurs, le talent et un esprit légèrement pris à pic. Et c'est fou parce qu'on a une image des Belges un peu dégueulasse en France, alors que lui, bon. Bon, c'est vrai que j'avoue qu'elle est pas sa patrie, mais et puis il y a Marina Rollman, voilà la Suissesse de la bande, hein.
De service aussi, tu peux rajouter.
Non, mais victime des préjugés et des clichés. C'est quoi les clichés sur les Suisses? La collaboration avec les nazis, le chocolat au lait et l'argent.
Vous rendez compte de
la, vous vous rendez compte de la pression qu'elle a? Bon, t'as de la chance, t'aimes pas le sucre, mais c'est un enfer pour elle. Tout le poids de l'histoire helvétique sur elle. Elle peut pas faire un coucou dans les couloirs au loin sans qu'on lui soupçonne un salut hitlérien. Et à la cantine, elle doit régaler tout le monde. France Inter, il la paye même pas, hein. Il pense qu'elle en a pas besoin. Cra, le service public. Bon, comme quoi, il y a des clichés qui sont aussi des vérités. Bonne journée.
Merci, Daniela.
France Inter, la bande originale, le best-of. Avec Nagui.
Leïla, vos oreilles ont sifflé quand on vous a dit que Charlotte de Turckheim venait dans cette émission.
Oui, Charlotte, on m'a parlé de Coluche dans votre bande originale, mais je voulais vous faire entendre une autre de vos idoles.
Moi, je pense que rien n'est plus fort que de jouer sa propre vie, ce qu'on a vécu, etc. Et que ça demande souvent du courage. C'est pour ça que peut-être je me suis arrêté à l'âge de 30 ans. Et moi, je pense que c'est ça, jouer, faire du théâtre. C'est être un enfant ou un éternel enfant, un éternel adolescent.
Philippe Cobert, qui était à ce micro, qui nous parle de l'importance de sa propre vie dans son œuvre, dans son jeu. Un propos qui doit vous toucher, puisque dans une interview, vous avez déclaré que c'était lui qui vous avait donné, dans une certaine mesure, la liberté de dire que votre vie, votre émotion, vos émotions, votre quotidien pouvaient peut-être intéresser le public.
Ah, c'est sûr, moi je pense que Cobert, pour moi, c'est un artiste majeur dans notre profession. Et moi, je trouve que je suis la fille de Cobert et de Coluche. Et quand même de Sylvie Joly aussi. Et ces trois-là m'ont autorisé d'abord. Enfin, d'abord Sylvie Joly, c'est la première fois. Maintenant, il y a énormément de femmes humoristes. Et j'ai l'impression que ma génération, d'ailleurs, on a engendré beaucoup de ces filles humoristes, donc moi je suis très fière de ça. Mais moi à l'époque, comme référence, il y avait une femme, c'était Sylvie Joly, c'est tout. Oui. Les autres, il y avait Jacqueline Maillan, mais elle faisait du théâtre. La seule femme qui montait sur scène toute seule pour faire rire, c'était Sylvie Joly. Et c'est vrai que quand j'ai vu Cobert sur scène, qui n'a pas vu Cobert, n'a rien vu dans notre métier quand même. Mais ce type est un génie absolu.
C'est lui qui vous a donné envie de faire tous les personnages justement et de raconter
Il fait ça lui aussi.
Oui, alors, c'est
ça,
quand on est allé voir, c'est drôle parce qu'on est allé le voir avec Bruno Gassio. Pas ensemble, et quand on s'en est parlé, il m'a dit non mais attends, on peut plus faire comme avant. Et c'est vrai que quand on a vu Cobert ou Coluche d'ailleurs, on peut plus faire comme avant, c'est-à-dire qu'on est obligé quand même de faire des choses un peu plus structurées, un peu plus, et puis surtout comme vous dites, c'est que ça nous a libérés, c'est-à-dire que on considère que, on dit toujours qu'à la fois la petite histoire peut devenir une histoire universelle si tant est qu'on sait la rendre universelle. Mais quoi de plus intéressant, moi ça me passionne la vie des autres. Enfin, quelquefois, il est chiant, non. Ah ouais. Tout à fait.
Pour faire le truc.
Quelquefois, il est chiant. Qu'est-ce que je raconte?
Il arrive qu'elle vous passionne.
Non, mais quand elle est bien racontée, très souvent, quand même, la vie de chacun est quand même, je trouve, moi, assez passionnante. Et puis après, il y a ceux qui en font des spectacles, des films, et dans le fond, n'importe quel artiste ne fait que raconter sa vie tout au long de sa... Tout au long
sauf qu'il faut trouver, quand on raconte sa vie, pardon,
les... Inspiré de sa vie.
Oui, il faut quand même que ça touche les gens qui...
Ah non, mais voilà, après, ce qu'il faut, c'est que ça touche les gens. Et c'est vrai que...
Et vous avez réussi ça, Charlotte, parce que, pardon de vous interrompre, vous êtes une pionnière aussi, parce que raconter sa vie, d'autres artistes ont pu le faire un petit peu avant vous, mais vous avez choisi un angle particulier, c'est de faire découvrir votre milieu social, qui n'était pas un milieu forcément très connu, et de porter ce milieu en dérision. Avant vous, il n'y avait pas...
Mais est-ce que j'ai eu envie de raconter mon milieu social, ou est-ce que j'ai eu envie de raconter vraiment l'histoire de cette maison? Parce que je trouve que ça serait prétentieux de ma part de dire que...
Nous, en tout cas, on découvre un milieu, en tout cas. Moi, je suis jamais allée dans une maison bourgeoise où j'ai jamais entendu ces accents, c'est cette façon de parler. Oh mon Dieu, le Portugal, c'est magnifique. Voilà. Et avec vos spectacles, on découvre une forme de réalité qui est la vôtre.
Parce que souvent, parce que moi, je suis assez attaquée quelquefois par les aristos, évidemment, qui me disent, mais
qui vous en veulent.
Bah, oui, évidemment.
Avec des fourches. Bah,
parce que
ça va, c'est la balle.
Oui, mais d'accord.
Ils vont pas vous guillotiner,
avec un petit ça ira. Qu'est-ce qu'ils y font?
Non, mais attendez, vous me faites rire. Vous en foutez, parce que...
Ouais, totalement. Alors, totalement.
Mais, comme par hasard, elle qui en balance sur les Suisses, à un moment, si elle défend pas un peu les Suisses vont lui en vouloir un peu en lui disant tu charries, merde.
Non, ils en veulent déjà parce qu'ils l'ont expulsé. C'est pour ça qu'elle
est ici. Oui, c'est ça. Bah oui,
je suis
réfugiée fiscale à l'envers. J'avais envie de payer des impôts.
Elle n'est pas réfugiée politique, elle est réfugiée fiscale.
Non, mais je comprends que les aristocrates puissent se dire attends, elle tourne notre univers en dérision.
Voilà, et puis ils sont pas tous comme ça, ils sont pas tous fauchés, ils sont pas tous.
Enfin, c'est pas une tribu, les aristocrates. Pourquoi vous parlez ça?
On peut
blesser son groupe socio-culturel.
On peut pouvoir aller au bon marché.
Faire des rallyes.
Je suis interdite. Je peux plus aller dans les rallyes.
T'as bien compris les codes parisiens, toi, très rapidement. Hein.
Non, mais voilà. Mais bon. Et donc, mais je comprends ce que vous dites. C'est-à-dire que moi, j'ai l'impression que je raconte quelque chose de vraiment ma famille à moi, ce qu'on a vécu à un moment donné de notre vie. Je ne raconte pas la vie de tous les aristos, évidemment. Mais il n'empêche qu'effectivement, je comprends aussi que
c'est une petite entrée.
C'est une petite entrée dans cet univers.
Est-ce que justement, vous vous êtes posé la question de savoir est-ce que vous alliez rester dans cet univers, c'est reprendre donc ce thème de la journée chez ma mère, ou de partir vers quelque chose de totalement différent, tout en restant sur ma vie, ma famille, ce que je vois au quotidien. Non, mais en préparant le spectacle, en disant je vais remonter sur scène, quel a été le moteur? C'est un, je veux remonter sur scène, ou c'est d'abord un, je veux reprendre une journée chez ma mère?
Alors, je veux reprendre une journée. En fait, il s'avère que je relis ce texte et je ris, mais toute seule, mais je me dis, mais c'est désopilant, je suis géniale. Non mais je riais toute seule et je trouvais ça tellement marrant.
C'est vraiment de la merde, la drogue, hein, franchement. Il y a des dangers.
Pas l'opium.
Et en même temps, j'avais un peu honte parce que je me disais, Charlotte, on peut pas se kiffer à ce point-là quand même. Un peu de...
Mais, un peu de pudeur. Il y a du monde.
Mais je riais, franchement. Et j'appelle Bruno et je lui dis, écoute, il faut qu'on remonte ce spectacle. Et je voyais justement comment l'adapter, comment faire... Parce que c'est vachement marrant de se dire que sont devenus mes personnages, comment ils ont évolué, qu'est-ce que je peux leur rajouter, qu'est-ce que je peux leur enlever. Ça, c'est vachement amusant. Et puis, un autre truc qui est un vrai challenge aussi pour un comédien, c'est de se dire, ok, j'ai joué ce spectacle à un moment donné, mais quelle comédienne je suis devenue justement 25 ans après? Et est-ce que je peux pas améliorer les choses? Parce que quand je voyais le spectacle après en vidéo, je me dis, oh ouais, c'est pas mal, mais merde, je peux faire mieux que ça, quoi. Et ma rencontre avec Patrice Thibault a été déterminante parce que ce type est un génie absolu. Il est un chaillot.
Qui vous a poussé à faire la danse de vos seins.
C'est ça.
Ah bah, oui. C'est ce que vous avez raconté, j'y peux rien. Vous avez dit, jamais je me serais permise de faire bouger mes seins comme il me l'a demandé.
Et ça donne quelque chose de plutôt réussi.
Heureusement que c'est une fille qui dit, parce que sinon...
Non mais j'ai trouvé ça très intéressant aussi.
De jouer avec son corps.
Exactement.
Ouais, votre corps
et de jouer
comme ça.
Avec le corps qu'on a. Ouais. Et c'est vrai que quand il m'a dit ça, c'était marrant parce que...
Je ne sais pas.
Oui. Vous auriez du mal.
Moi, je ne pourrais pas.
Voilà, il faut le voir pour comprendre maintenant voilà, les vannes entre
Et quand on voit Patrice Thibault, allez le voir dans Franito, il est à Chaillot en ce moment, dans Franito, ce type est exceptionnel, c'est un fou.
La manière dont il occupe l'espace et la manière dont il se sert de son corps. Ouais.
Et dans Franito, il le fait pas, mais dans l'autre spectacle, il fait quand même, il fait un personnage avec le gras de son ventre, mais franchement...
Tu vois, Daniel, c'est...
Moi qui voulais faire de la
ça
scène.
Ça peut servir à quelque chose.
Non, mais il fait un truc, mais c'est extraordinaire, et ça vous libère. C'est-à-dire qu'on se dit, ben voilà, on a tous ce corps-là.
Il faut l'assumer.
Plutôt, voilà, il faut l'assumer.
Ça. Patrick Sébastien, il fait Gainsbourg. Mais
non.
France Inter, la bande originale, le best-of, avec Nagui.
Eddie Mitchell, la même tribu avec toute cette bande de... Alors on a quand même envie de dire de copains, parce que même si ils sont pas tous des amis intimes, c'est un choix, une programmation presque que vous avez faite. Vous avez fait le rôle, vous avez retrouvé votre rôle de producteur, peut-être pas télé, mais musical, en disant vous venez participer à cette même tribu. On parle un tout petit peu de la pochette, même à la radio. Il faut évoquer quand même le travail formidable de bande dessinée. On retrouve là aussi un autre univers où les tronches de pratiquement tous les invités... Le tronche de tous les invités se retrouve dessiné comme dans un troquet et vous
un
êtes
saloon.
Le barman.
Ouais,
un saloon.
Un troquet western, on va dire.
et vous êtes le barman.
Oui.
Alors, comment est venue l'idée de cette pochette?
C'est-à-dire que moi, je suis un fan de BD, c'est pas nouveau, et de planches originales, entre autres, etc. Et je suis fan de ce nouveau, parce qu'il a quand même déjà un peu de bouteille, ce dessinateur. Qui est formidable, qui est Ralph Meyer, et qui fait une série de BD extraordinaire qui s'appelle Undertaker, et qui est, c'est un peu l'enfant de Giro, de JG, de tout cela. Mais il a une patte à lui, et en plus, ses scénarios sont formidables, parce que ça me fait penser un peu aux séries, vous savez, où il y a un personnage central avec des seconds rôles, et puis dans une autre histoire, paf, c'est le second rôle qui devient la star, etc. Et ça, c'est intéressant. Dans la BD, ça n'existait pas.
Alors, dans cet album, ce volume 1, des invités comme Johnny, on a dit, Renaud, Jacques Dutronc paraissent être des incontournables. On peut être plus surpris quand vous allez sur une autre génération, comme celle de Sanseverino ou de Kerenan. Ça, c'est parce que vous aimez leur répertoire, parce qu'on vous les a suggérés.
Sanseverino. Et le truc qui est amusant, c'est que l'idée m'était venue de faire Nashville ou Belleville avec lui dans cette émission-là, parce que pour le précédent album, on avait fait donc une promo ensemble dans ce même studio.
Dans cette même émission,
dont il faisait partie.
Exactement.
Et pendant qu'on discutait, lui, il jouait Nashville ou Belleville.
Exact.
J'ai dit, tiens, toi, je te retrouverai.
Et on l'a, ça, d'ailleurs.
Boulevard Elvis, au cœur de Memphis, je traîne là en touriste. Mais où sont mes racines, Nashville ou Belleville, Jerry Lee Lewis.
Et ça, c'était dans la bande originale, et sur l'album, ça devient...
Boulevard Elvis, au cœur de Memphis.
Et c'est appliqué, là, un peu plus. Hein.
Oui, enfin, notre prise de son était quand même bien meilleure que celle des Américains, quand même arrêter.
C'est trop couvert, là, je suis d'accord. Jerry Lee Lewis.
Est-ce que vous avez des regrets de ne pas avoir tel ou tel invité entre le volume 1 et le volume 2? On les a pas nous tous en tête. Est-ce qu'il y a un rêve qui n'a pas pu se réaliser?
Oui, il y a eu Tina Turner qui devait chanter avec moi, toujours un coin qui me rappelle. Et puis elle a subi une opération très très lourde il y a pas très longtemps. Et elle en a pour 6 mois, 1 an de rétablissement.
À se remettre.
Ah ouais.
D'accord.
Donc elle m'a dit bah non. Voilà.
C'est chose remise, en tout cas.
Volume 3.
Ouais, évidemment. Vos oreilles ont sifflé, Leïla, quand on vous annonçait la venue d'Eddie Mitchell dans la bande originale.
Quand je pense à vous, Eddie Mitchell, je pense à un titre de livre, Philosophie du schmoll, Eddie Mitchell ou la question du scepticisme dans la société néolibérale.
Oula.
C'est même pas que ça existait, j'ai l'impression.
Non, c'est en couleur, c'est quoi?
C'est
un colorier, alors.
En fait, vous avez inspiré le travail d'un enseignant, Eddie Mitchell.
Ah oui,
Philippe Corcuff.
Oui.
Qui a considéré que vous étiez un philosophe qui parlait très bien de votre époque. Et il fait en sorte de vous faire enseigner à l'école où vous avez intégré les manuels scolaires.
Pauvre gosse.
Pourquoi pauvre gosse?
Parce que quand on est gosse et qu'on vous impose quelque chose, ça vous emmerde immédiatement, c'est normal.
Oui, sauf s'il y a un peu d'intérêt là-dedans.
Oui, ben là, faut vraiment que le prof soit très fort.
Ouais, vous vous dites quoi, mince, on va avoir une disserte Eddie Mitchell à rendre pour lundi.
On va faire une statue, les pigeons feront dessus, voilà. Bon, c'est...
Et est-ce que vous
ou
pensez...
Ou les pigeons d'ailleurs, si c'est pas les dents, c'est les pigeons, au moins les pigeons.
Si on reprend l'intitulé de ce livre, Eddie Mitchell ou la question du scepticisme dans la société néolibérale, est-ce que vous vous décririez comme un sceptique?
Sceptique, oui, mais sceptique enjoué, on va dire. Voilà. Sceptique de bonne humeur, sceptique. Oui, sceptique, bien sûr.
Pourquoi sceptique?
Parce que je ne crois pas aux hommes politiques, je ne crois pas à certains médias, je crois pas à tout ça. Donc, je pense pas d'ailleurs être le seul, mais donc, on vit de plus en plus en retraite, tout cela. Pour ça que c'est un peu du scepticisme.
On vous entend peu sur la question politique.
Il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. Sinon, qu'il y a de leur faire un bras, je vois pas, il n'y a pas de chose à faire. Hein.
À ce point-là, il n'y a pas un mouvement, ou en tout cas, non, rien qui...
Non, parce que plus ça va, plus on vote contre.
Ouais.
Donc on ne vote pas pour, on vote pour éviter le drame.
Ouais.
Donc il n'y a pas le choix.
Et ça a toujours été comme ça, tout au long de votre vie ou pas? Vous avez senti que l'intérêt pour la politique s'est amenuisé avec le temps?
Ça oui, c'est vrai. Plus ça va, plus d'ailleurs, je pense que c'est un peu le réflexe des Français. Plus ça va, plus la politique n'intéresse plus personne. Il n'y a qu'à voir l'échec de la droite, la gauche qui se perd en chemin. Enfin oui, j'allais dire autre chose, mais bon, qui perd ses bas, quoi. Puis voilà.
Et plus tôt dans votre vie, est-ce que vous aviez une sorte de conviction politique chevillée au corps? Est-ce que vous avez
été militant? Oui, j'étais anti-gaulliste, alors donc ça m'occupait, hein, parce qu'il prenait de la place.
Vous avez été très giscardien pendant un moment.
Oh hein, non. Non, j'étais Mitterrand, c'est vrai, j'ai cru en Mitterrand.
Et comment ça s'est matérialisé? Est-ce que vous étiez un engagement individuel ou actif dans la société?
Ah non, il suffit de voter, ça suffit. Ouais. Bon, en plus, aller faire les pompes.
Non, ça pourrait être milité au sein d'un parti.
Non, il y a eu quelques interviews où vous alliez pas avec le dos de la cuillère, comme on dit, vous disiez ce que vous pensiez.
Bah oui, pourquoi
non, non, mais c'est ça, c'est une forme d'engagement.
D'engagement.
Et puis d'écrire des textes de chansons aussi. Ouais.
Oui, bon, bien sûr, mais enfin, ça me préoccupe pas plus que ça dans la journée. Hein.
Est-ce que vous vous êtes dit que potentiellement parler de votre rapport à la politique, ça pouvait être un problème par rapport au public?
Oui, ça, je pense que oui. Je veux dire. Parce que quand on est pour quelque chose, qu'on y croit, bon, pourquoi pas, et qu'on en parle et qu'on en parle, on influence des gens, souvent.
Ouais.
Bon, et c'est pas notre rôle, nous on est là pour les faire marrer, ou les divertir, ou pour les faire danser, ou pour les faire bouger. Mais on n'est pas là pour leur dire « engagez-vous ».
Mais est-ce qu'il peut y avoir aussi des moments où vous êtes sur scène et vous vous dites « il y a une partie du public qui est... pour quelqu'un que je déteste, moi. »
Ça, j'y pense pas du tout. Mmh. Par contre, je crois que les politiques, eux, s'y intéressent parce qu'ils font pas autant de monde que nous.
Et voilà. Vous avez déjà été sollicité pour soutenir une campagne officiellement, comme on le voit de plus en plus, d'ailleurs.
Oui, mais enfin, ça m'a jamais passionné, jamais donné suite.
Il y a aussi sur l'album des duos, mais j'ai envie de dire des duos où vous êtes... pas seul, un duo entre vous
principe,
et un instrument. C'est pas des duos de voix.
Il n'y a pas que les mères qui font les enfants.
Je savais que je pouvais compter sur toi, Daniel.
Toujours là, tu sais.
La zone, la rue coule dans mon sang.
Et je pense à ce titre où vous partagez le son avec Maalouf, Ibrahim Maalouf.
Avec qui joue bien.
Punaise. Et c'est vrai qu'on peut penser que par rapport à la musique que vous aimez, celle que vous portez, on s'attendait peut-être à un solo de guitare. La trompette, c'est un très bel instrument, très bien joué par Ibrahim. Mais je me suis dit, tiens, ou à l'harmonica.
Oui, non, ça a été possible, mais je tenais à voir Ibrahim parce que d'abord, je trouve qu'en France, il n'est pas assez reconnu, alors qu'aux États-Unis, il fait quand même des salles de 2000-3000 places, tranquille. Donc, alors que ce petit bonhomme joue de la trompette.
Il a mis le feu à Bercy avec 18 000 personnes. Et
oui, d'accord, mais on parle de ça maintenant, mais je parle de ça moi, il y a 3-4 ans hein, déjà.
D'accord.
Il y a 4 ans, il n'aurait pas fait 18 000 personnes à Paris, je pense.
C'est clair.
Et donc, quand j'ai demandé à Rob Runsell, arrangeur, de réécrire des violons par-dessus, j'ai pensé tout de suite à la trompette, parce qu'une guitare serait... Je sais pas, ça aurait été peut-être pas mal, mais je veux dire, ça aurait fait un petit peu téléphoner, quoi.
Et sûrement, pourquoi le choix de cette chanson ouais. C'est vous qui l'avez choisi, la
oui,
chanson
oui,
tout
oui,
seul.
La chanson, oui, puis en plus, je l'ai fait écouter, il a adoré, en avant, en feu.
C'est le choix des chansons moi, qui me perturbe, parce que quand on, encore une fois on voit votre répertoire, j'ai pas compté, d'ailleurs vous avez compté le nombre de chansons
ah
publiées.
Non, autre chose à faire.
Oh, non, mais quoi
pas de politique, pas de comptabilité.
Non. Je traverse dans les clous quand même, parce que je suis français.
Ah, il est BD.
France Inter, la bande originale. Le best-of.
L'album s'appelle Echoes from the Borderline de Moriarty, double album pour fêter les 10 ans de tournée. Et il nous offre un nouvel extrait, je parle d'Eric, Vincent, Stéphane et Rosemary. Et le titre c'est When I Ride, c'est dans la bande originale. La même tribu, l'album s'appelle tout simplement La même tribu, volume 1. Eddie Mitchell est notre invité jusqu'à midi et demi. On va évoquer quelques dates de votre carrière, vraiment quelques dates. Hein. On va pas vous saouler en partant dans la bande originale avec trop de disques, puisque c'est finalement cette bande originale, c'est La même tribu. Mais ça sera juste après l'humeur de Marina Rollman. Oh, mais si. qui a été adorable ce matin en arrivant. Elle m'a fait la bise et elle m'a dit « Ah ben non, j'aurais pas dû t'embrasser, je suis malade. »
Mais c'est l'effet que tu fais aux gens et qui
c'est ça. Je te remercie. La prochaine fois, tu me dis avant.
Oui, alors moi, aujourd'hui, je voulais vous parler non pas de maladie, mais de vacances. Voilà, pour dire « ça suffit, il faut arrêter les vacances. » Tant que tous les gens qui partent n'auront pas, au préalable, été forcés de faire un séminaire d'écriture. Virginie Despentes, Yasmina Reza, Nabila Benatia, peu importe le style de l'auteur, mais il faut apprendre à raconter, bordel. Moi, je vais pas survivre à un récit de plus dans le style « Brooklyn, ah non mais c'est génial, ça bouge, il y a des boutiques de dingue, des super coffee shops, il y a une espèce d'ébullition créative très cool et en même temps c'est super vert, on dirait un peu Montreuil. Eh ben reste à Montreuil, connard. J'y crois. C'est incroyable, on fait fondre les glaces à dépenser du jet fuel pour aller au bout du monde faire les mêmes trucs qu'on peut faire chez nous. En plus, comble de l'absurde, chez nous c'est la mode des trucs décorés un peu genre Brooklyn. Et aux États-Unis, c'est la mode des trucs décorés un peu genre la française. Alors attendez, j'ai une idée de dingue, ça vous dit ? On ouvre un café français en France. Comme ça, on arrête de faire 8 heures d'avion pour dire à un serveur new-yorkais I'll have a café au crème and the macaron, yes, thank you. Ou alors, si le but avoué, c'est de faire exploser la planète, on va directement au pôle Nord avec des sèches-cheveux, qu'on en finisse plus rapidement, tu vois. En plus, il y a cette idée très compliquée de l'authenticité quand tu pars en vacances, qui vient se rajouter à tout ça. Tu sais, tu veux vivre du vrai, du brut, mais en 3 jours et sans parler la langue. Il y a un contresens. Tu peux pas faire le mouton aux mêmes dates que tout le monde dans des charters et vivre un truc unique. Je veux dire, la dernière fois que j'étais dans un aéroport, c'était très bien illustré d'ailleurs par une pub Dior qui passait comme ça en boucle sur les écrans géants au-dessus de la sécurité. Et dedans, il y avait Johnny Depp. Alors, il avait ses petites lunettes de Johnny Depp, vous savez, c'est ni solaire ni transparent, c'est un peu bleu clair. C'était mignon quand il avait 30 ans, là il commence à ressembler à Sophia Loren. Enfin, Johnny est là, alors au départ il fait d'abord très mal semblant de jouer de la guitare, ensuite tu sens il a envie de tout lâcher, alors il lâche sa guitare, il monte dans sa voiture, il roule dans le désert et là il croise un bison. Alors là clairement Depp est plus impressionné de croiser le bison que l'inverse. Le bison il a un truc à faire, il a un rendez-vous Pôle emploi, peu importe, il se laisse pas démonter, il continue. Johnny Depp ça réveille un truc, en lui du coup il fait un sale créneau dans le sable, il sort de la voiture, il prend une pelle dans le coffre, il enlève ses colliers, il les enterre, il se met à pleurer et là, pack shot, sauvage. Bon, déjà nos condoléances à la famille de la personne qui a écrit ce spot, qui clairement a fait un AVC pendant la conception. Mais donc surtout, la conclusion de la pub, c'est Johnny Depp qui te dit tranquillement avec 6000 euros de fringues Dior sur le dos, soyez sauvage, faites comme je vous dis. Nous les vacanciers et nos petites aventures avec le routard à la main, c'est un petit peu le même niveau d'ironie. Bon après c'est vrai que le voyage, il y a le côté ouverture d'esprit, tu sais, en voyage, tu vis des trucs qui changent ta vision du monde. C'est vrai, hein. Moi, typiquement, j'étais dans le Luberon il y a quelques semaines, j'ai énormément appris. Par exemple, le fait de commencer à se pinter au rosé à 11h du matin, ça correspond très très bien à mon horloge interne. Ça a été une vraie leçon de vie, je me suis découverte. Et puis bon, plus simplement, c'est vrai que c'est chouette de partir en vacances pour passer des moments agréables, hein. Personnellement, par exemple, en décembre, je pars à Los Angeles. Alors, je vous entends déjà, mais non. Vraiment, si vous êtes jamais, il faut aller à Los Angeles. Parce que vraiment, c'est une autre mentalité que New York, tu vois. La proximité avec l'eau, le soleil. Il y a un truc hyper bouillonnant culturellement, c'est très détendu, il y a des super raisons. Il y a un côté un peu Marseille, en fait.
Marina Rollman, merci.
La bande originale, le best-of. Sur France Inter.
Eddie Mitchell, notre invité, on a envie de dire que Eddie, mais pardon, on va être poli. Monsieur Eddie Mitchell, en 1981-82, on va parler cinéma cette fois-ci, vous chantiez.
Elle était maquillée comme une star de ciné, accoudée au jukebox.
Ça sera dans le volume 2, ça aussi.
Exact, ouais, ouais.
Avec qui
J'ai oublié, pardon.
Donc mais ça quelqu'un sera... de super.
Oui, oui, c'est super, mais je suis un peu planté.
Juliette Armanet.
Voilà.
Juliette Armanet. Une habituée de nos studios également. 80-82, c'est aussi la période de coup de torchon et dernière séance, c'est-à-dire c'est le cinéma qui est votre passion. Vous êtes un comédien absolument formidable, formidable. Je vous l'ai souvent dit, mais on vous aime. Et je sais que là, en plus, vous venez de terminer un tournage. Quel souvenir vous en avez de ce coup de torchon de Tavernier ?
Ah bah, c'est plutôt bien, parce qu'il n'y a pas longtemps, j'ai vu Bertrand. C'était à Lyon, là, parce que je recevais une récompense à Lyon. Et donc, j'ai mangé du saucisson. Voilà, et on s'est remémoré deux, trois trucs. Et notamment des choses formidables. Par exemple, j'ai un doigt cassé que je ne peux à peine bouger. Et c'est grâce à Bertrand, parce que il y avait une petite scène de bagarre avec Noiret, mais vraiment pas méchante. Et il y avait personne pour nous doubler, bien sûr. Et puis, Bertrand.
Vous n'avez pas fait une cascade non plus.
Non, mais je dois prendre un coup de poing, je dois devenir un mètre un, puis je dois tomber, je suis tombé sur la main, et crac, j'ai tordu le doigt. Et le doigt est cassé, bon, c'est pas grave.
Et donc, depuis 40 ans?
Ouais.
Ah oui, d'accord.
Ouais, ouais. Bah oui, parce que comme j'étais obligé d'aller à Saint-Louis, on était à Saint-Louis du Sénégal, à l'hôpital me faire soigner, j'ai préféré me faire mettre un plat parce que j'ai vu des rats passer, des choses comme ça. Je dis, tiens, peut-être pas me faire soigner là.
Des maladies nosocomiales, on va peut-être oublier.
Non, mais je dis simplement que Bertrand, lui, fait, écoutez, vous faites comme vous voulez, moi je veux pas voir ça.
Et vous dites que le personnage de Nono, c'était un véritable cadeau.
Oui, c'était un cadeau, mais c'était un peu empoisonné parce que moi je connaissais bien le roman original, ouais. 1275 âmes de Jim Thompson. Et dans le roman, le personnage est encore beaucoup plus énorme que ce que j'ai pu en faire à l'écran, puisqu'il est épileptique, il se roule par terre, il bave. Ouais. Il y a peut-être une prise, mais pas deux. J'aurais pas à faire ça en boucle, quoi.
Et est-ce que ce moment-là de votre vie, vous aviez envie de vous orienter en direction du cinéma uniquement?
Non.
Non, ça n'a jamais
non,
été.
Non, mais de toute manière, le cinéma pour moi, c'est toujours un plaisir. C'est amusant, mais je suis pas vraiment comédien, je peux pas accepter.
Ah si, vous pouvez pas dire ça.
Non, mais non. Si je dis ça, parce que moi j'ai la chance de pouvoir choisir et de faire ce que j'ai envie de, ce qui me plaît, ce qui veut pas dire que j'ai raison. Je me gourre parfois dans,
vous
dire, vous dans les choix.
Vous ne dépendez pas du désir des autres.
Non.
Vous êtes libre.
Ouais, complètement. Donc c'est amusant comme ça.
Est-ce que la télé c'était amusant parce que c'est la même période aussi, la dernière séance à la télé?
Oui, c'était amusant, mais c'était une autre période de l'histoire de la télévision. C'est-à-dire que on produisait Gérard Jourdui et moi l'émission en participation avec Patrick Boyon,
ouais.
Et on livrait. Moi, j'ai jamais.
C'était Monsieur
vu...
Cinéma de la 3, hein, c'est ça?
Oui, si on veut. Mais moi, j'ai jamais vu les gens de télé, quoi. Puis c'est pour ça que ça se passait bien.
Sûrement. Et
qu'est-ce qui a été le déclencheur de la dernière séance? Comment ça a commencé?
C'était en plein mois d'août et j'avais une tournée qui s'annulait, je sais pas quoi, et j'étais 15 jours à Paris, je m'emmerdais, il n'y a pas d'autre terme. Et puis je connaissais le patron du cinéma Hermitage sur les Champs-Élysées, et je disais, c'est con quand même que ça ferme à minuit et que ça dure pas jusqu'à 5 heures du matin, quoi, les projections. Il me dit, bah oui, mais c'est comme ça, c'est la loi. Je dis, on va essayer de voir ça avec les grands patrons du GC. Et j'ai demandé d'avoir la salle de minuit à 5 heures du mat. Et on a mis simplement une petite affiche et dit, Michel vous propose, c'était je crois le premier truc, La Blonde et moi et Scaramouche. Et ça a été un carton. Les gens venaient à minuit au cinéma jusqu'à 5 heures du mat.
Mais vous présentiez le film?
Non, je ne présentais pas
du
tout.
Programmateur,
simplement. Programmateur. Et mes programmateurs astucieux, parce que je passais...
Je vendais les glaces et...
Non, je passais des documentaires qu'on ne reverra jamais, l'influence sexuelle sur le comportement des fourmis rouges en montagne rocheuse, par exemple, des trucs formidables. C'est le Technicolor qui pète, tout ça, bon.
Et vous avez une collection personnelle de films impressionnants?
Non, ça c'est chez un ami à la campagne, parce que...
Non, je ne demande pas l'adresse, non, je veux savoir si...
J'ai plus la force de porter
les bobines. mais oui, vous êtes collectionneur.
Oui.
D'accord. En 2008, on va passer du cinéma au théâtre.
Violent, angoissant, cruel, inhumain.
Là, on se replonge dans l'ambiance de l'album Jambalaya, qui était sorti peu de temps avant. Mais Eddy Mitchell se retrouve au théâtre.
Et oui, sur scène, aux côtés de Cécile de France, Le temps des cerises.
Alors, qui là, sera d'ailleurs dans le prochain album.
Voilà. Dans volume 2. Dans
Fidélité, 2. Donc retour avec cette partenaire de jeu. Vous étiez sur la scène du Théâtre de la Madeleine. Qu'est-ce qui fait qu'on accepte cette nouvelle expérience? Parce qu'autant au cinéma, on peut se dire, on coupe... On a peut-être une sécurité au théâtre, on est mis à nu.
Il y a d'abord le thème de la pièce qui m'a plu, et puis le fait de faire un partenariat avec Cécile de France, qui est une comédienne extraordinaire, et je pèse mes mots, parce que c'est vrai, c'est quelqu'un qui attire la lumière.
Ouais.
Elle est, je dis pas qu'elle est quelconque dans la vie, loin de là, c'est une jolie fille.
Elle est jolie fille, joyeuse et...
Ouais. Ah oui, débridée.
Et bonne camarade.
Très bonne camarade. Ouais. Et par contre, vous lui mettez un petit coup de peinture sur le nez, paf, un spot, et elle prend tout. Elle est extraordinaire.
Et est-ce que c'est plus proche de votre métier, finalement, d'être sur scène?
Ah non, ça n'a rien à voir.
Non.
Ça n'a rien à voir.
Vous n'êtes pas plus à l'aise, vous n'avez pas quelque chose... Vous avez quand vous chantez sur scène, vous avez un rapport au public, vous savez le tenir.
La voix fatigue moins au théâtre, hein, ça c'est vrai qu'on fatigue moins. Mais c'est une autre expérience, mais par contre, qui m'a pas...
Bouleversé
parce que c'est tous les jours la même chose.
C'est ce que j'ai dit, ouais, de refaire tous les soirs la même chose. Ça, c'est...
Et puis c'est la même loge où Sacha Guitry est mort dedans, mais il y a très longtemps, mais ils n'ont rien fait depuis. Quoi. Ouais,
et ça sent toujours. Quand même.
Ça sent toujours les chaussettes.
Mais vous avez besoin d'être en mouvement, quoi. C'est oui, ce principe. Oui, la tournée, c'est, non, j'aime, c'est indépassable.
J'aime, pareil, j'aime plus beaucoup les tournées parce que les hôtels, ça va, je les connais par cœur. Et... Les salades gourmandes à 1h du matin, ça suffit.
Périgourdine.
Le club, club sandwich.
Club sandwich
de
vient bien racine. Bien.
Non, mais maintenant.
La frite
en
qui...
fait, j'ai l'impression que vous faites tout ça dit... dans ces conditions, Eddie Mitchell, ouais. Maintenant. Si vous tournez en France, vous n'allez pas dans des hôtels miteux.
Mais c'est pas miteux. Hein, mais non, mais c'est pas. Je parle pas d'hôtel miteux.
Ah oui, d'accord.
Je dis de toute manière, à 1h du matin, vous dînez où? Déjà à Paris, c'est compliqué, alors ouais. À Limoges.
En fait, vous avez pas envie qu'il y ait maintenant le moindre truc qui vienne vous emmerder.
Ah ouais, exactement.
C'est ça.
Exactement.
On est limite de la contrariété.
France Inter, les meilleurs moments de la bande originale avec Nagui.
Dans la bande originale, voici Raphaël retourné à la mer.
Je voudrais retourner à la mer, les vagues où naissent les rochers, la terre sur laquelle tu marchais. Je voudrais retourner à la mer. La villa doit être occupée, j'entends résonner d'autres vies, des amoureux déshabillés pour un dernier bain de minuit. Le jour se lève entre les cieux et les milliards d'insectes antiques sur les falaises immobiles observent de loin l'Afrique. Je voudrais retourner à la mer, l'amour à peine l'a-t-on connu, qu'il faut s'en aller vaincu sans rien comprendre à son mystère. Retourner à la mer, les oiseaux qui tournent dans le vent, sans effort, sans mouvement, sur la courbure de la terre. Le jour se lève entre les îles et les milliards d'insectes antiques sur les falaises immobiles. Observe de loin l'Afrique.
C'était Retourner à la mer, Raphaël.
La bande originale, les meilleurs moments sur France Inter.
Yves Vigo est notre invité. Merci Yves de venir à ce micro. Vous êtes producteur, animateur, programmateur, journaliste, directeur général de TV5 Monde et patient surtout, puisque vous êtes là depuis le début de l'émission.
Vous êtes là depuis très longtemps.
Depuis en qualité, trois jours. Il est venu jeudi pour l'émission vendredi, c'est pour te dire à quel point il est cool. Les amours de la chanson française et du rock, on en avait parlé ensemble aux éditions Don Quichotte. Et on parle devant Eddie de ce côté monstre sacré. On en a plus tant que ça des monstres sacrés, mais c'est un livre ouvert, la vie d'Eddie Mitchell. Il nous reste qui d'ailleurs comme monstre sacré dans la chanson française?
Il y en a un à côté de vous.
En plus Eddie, ouais.
Nagui, il y a Charles Aznavour. Et je vais peut-être vous surprendre, mais il y a Serge Gainsbourg.
Toujours.
Ben oui, toujours.
Malgré son absence, entre guillemets.
Et oui, mais parce qu'il est toujours présent. Mm. Alors non seulement il est présent à travers Jane Birkin, évidemment, hein, qui fait vivre son répertoire, à travers Charlotte, hein, sa fille, qui devient une artiste, mais aussi une chanteuse considérable.
À travers les vieilles canailles qui ont été reprises.
Parce oui,
c'est vrai
que
les vieilles canailles, c'est Gainsbourg.
Ben oui, bien sûr. Et puis aussi, à travers cette carrière posthume qu'il fait dans le monde anglo-saxon, et dont il aurait rêvé quand il était vivant, parce que c'était son obsession. Moi, quasiment chaque fois que je le tournais pour Rapido, il adorait nous parler en anglais, puisqu'on était diffusé sur la BBC.
Une chose, chaque fois que je le tournais pour Rapido, n'est pas une expression culinaire.
ni pour un scooter.
Vous étiez en tournage pour une émission qui s'appelait Rapido, présentée par Antoine Decaune. Antoine, que vous retrouvez tout à l'heure à 16h sur nos antennes.
Voilà, et dont j'étais le rédacteur en chef.
Voilà.
Voilà. Et Serge, il adorait parler en anglais parce qu'il trouvait que c'était moderne, parce qu'il aimait la musique anglo-saxonne, comme Eddie, comme Johnny, comme les gens de cette génération. Il était fasciné par ça. Il serait tellement heureux aujourd'hui de voir qu'il est l'inspiration de Tame Impala, de Beck, de tellement d'artistes anglais, américains, australiens d'aujourd'hui.
Will.i.am a déclaré vouloir faire de revisiter Melody Nelson, le concept album de Melody Nelson, tellement il est fan de Gainsbourg.
Qui, et Eddie s'en souviendra sûrement, a été un bide incroyable lors de sa sortie.
C'est vrai.
Serge, il a failli se faire virer à l'époque de chez Philips parce qu'il en avait vendu moins de 15 000. Alors qu'aujourd'hui, c'est considéré, tout le monde pense que ça a été
mondialement comme un album référence. Ouais.
Mais oui, c'est, il figure, cet album, dans les classements de la presse spécialisée anglaise ou américaine, dans les 100 ou 200 plus grands albums de tous les temps. Et vous voyez, c'est la manière dont l'histoire se réécrit. C'est qu'aujourd'hui, tout le monde est persuadé que ça avait été un succès à l'époque. Comme Starmania dans un autre genre. Tout le monde est persuadé que Starmania...
Ça s'était planté, c'est vrai.
Starmania, bien sûr.
Il a du mal à démarrer.
Ouais, exact, oui, ils étaient obligés de faire venir, d'inviter les pompiers de Paris pour remplir la salle.
Un peu de respect pour les pompiers de Paris, c'est bien de les inviter. Arrête, écoute.
Mais surtout les pompiers. Dites-moi, Yves. Oui, j'ai une passion pompier, moi. J'avoue.
Je comprends.
Je fais mon coming out pompier. J'attends pas le 14 juillet.
Mais dis aussi, apparemment.
Un peu moins, quand même.
Je vous en montrerai quelques-uns.
C'est fini, oui.
À quoi on discute. J'ai une question, Yves. Côté monstre sacré, il n'y a pas de femmes? Qu'est-ce que vous comptabilisez dans les femmes, entre guillemets? Est-ce que quelqu'un comme Barbara mériterait de figurer dans ce
Alors, bien sûr, mais bien sûr, Edith Piaf, mais la question de Nagui, je pense, concernait les vivants. C'est pour ça, d'ailleurs, que. Que je parlais de Gainsbourg, justement, pour vous surprendre. Mais bien sûr, on peut imaginer. Parce que dans la question de monstre sacré, il y a quelque chose aussi de l'ordre de. Ils sont en péril ou un peu au bout. Moi, je pense qu'on pourra vraisemblablement, dans quelques années, considérer que Véronique Sanson était un monstre sacré de la chanson française, parce qu'elle a apporté avec Michel Berger quelque chose de tout à fait révolutionnaire, justement dans la génération qui a suivi.
Et pourquoi dans quelques années, on ne peut pas le dire maintenant que c'est un monstre sacré, Véronique Sanson?
Oui, il faut quoi comme critère, en fait?
Elle
a traversé beaucoup de périodes musicales, si on parle de
Non,
de
mais Véronique. C'est-à-dire, la notion même de monstre sacré est quand même... Il y a monstre, déjà. Parce que sacré, c'est une chose, mais monstre, c'en est une autre. Il faut avoir quelque chose de monstrueux en soi, c'est-à-dire, il y a un truc de l'ordre de... une espèce de possession, quelque chose de presque un peu messianique, pour être justement un monstre sacré. Et donc, c'est quelque chose qui est indépendant du talent. C'est en ça que peut-être Véronique, son talent n'est pas en cause, il est absolument immense, mais est-ce qu'elle est monstrueuse? Et est-ce qu'elle est déjà sacrée? Je ne sais pas.
Est-ce que dans Monstre Sacré, il faut aussi comprendre, je vais faire attention parce que Eddie Mitchell a peut-être un doigt cassé, mais il lui reste encore neuf avec lesquels il peut frapper.
Il a des très bonnes oreilles, hein,
aussi. Une très grosse chevalière.
Est-ce qu'il faut entendre vie de
tumultueuse.
D'icône du rock, c'est-à-dire drogue, alcool.
Tumultueuse, ouais.
Ouais, tumultueuse, accident de voiture, la une des journaux à sensation et ainsi de suite.
En tous les cas, la tragédie. Oui, forcément. Je pense que c'est un mélange entre la tragédie, vous évoquiez Barbara.
Mais Véronique Sanson a quand même un parcours un petit peu difficile. Elle a été mariée, elle a eu des problèmes avec... Non, je me trompe.
C'est pas la seule difficulté qu'elle a connue.
Elle a dit, on en a parlé. Et puis même les rapports violents avec Stephen Stills aussi, qui n'était pas le plus tendre des maris.
Mais il ne suffit pas d'avoir connu un mariage monstrueux pour devenir un monstre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très compliqué, ces notions à manier.
Est-ce qu'on n'est pas un peu aussi limité par le fait que souvent, ça a été des hommes, les monstres sacrés, et qu'on a peut-être du mal à apposer ce qualificatif à une femme parce qu'elle représente sans doute autre chose dans ce qu'elle dégage sur scène?
T'as trouvé un autre nom, sorcière divine?
Non, je pense pas. Je pense que Édith Piaf était un monstre sacré, que Maria Callas était un monstre sacré. Donc je pense pas que ce soit une question genrée.
Mais moi, j'ai quand même l'impression quand même, c'est on dit monstre sacré et on parle de ses vies d'histoire. Sans entrer dans la vie privée d'Eddie Mitchell, je n'ai pas le sentiment que vous ayez autant de fêlures ou de...
De tourments, oui.
Non, pas apparent, c'est-à-dire que, comme si on prend la définition du monstre sacré, il ne faut pas oublier qu'il y en a beaucoup qui s'y prêtent aussi. Bon, et moi, je préviens
les
gens...
Vous jouez plutôt la tranquillité aussi.
Non, non, moi, pas la peine d'entrer dans mon jardin secret,
C'est ça. Mais comme un peu Jean-Jacques Goldman, c'est-à-dire qu'on n'a pas non plus l'image d'un bonhomme qui a touché à tous les produits dérivés, qui a une vie dissolue, qui fait... Non, mais
c'est comme ça que t'appelles.
Non, mais là, on sent le producteur qui parle, produits dérivés.
On sent pas l'homme torturé,
Je voulais pas répéter alcool et drogue, mais c'est pas une image qu'on peut avoir de Goldman, qui est plutôt un mec extrêmement sain.
Ah non, qui fait du jogging tous les jours, pendant des kilomètres, oui.
Bah là, elle va trop loin quand même.
Le meilleur de la bande originale, ça continue avec Leïla Kadoboudadi, Daniel Morin, Albert Algou, Guillermo Guise, l'info maltraitée par Tanguy Pasturo. Aujourd'hui, Camilla Jordana et Daniel Auteuil avec en live Moriarty. C'est le meilleur de la bande originale. La suite, c'est parti. Le Brio, le film réalisé par Yvan Attal. On est ravis de ce film qui est intelligent et qui montre aussi comment symboliquement une jeune fille des cités et une espèce de notable parisien, avocat refoulé peut-être, professeur en tout cas à Sas.
Et Nagui, excusez-moi de vous interrompre.
L'un et l'autre.
Avons-nous dit à quel point aussi ce film était drôle?
Non.
Pas assez, vous avez raison.
Je vous en prie, allez-y.
Merci. Ce film est extrêmement drôle et je le dis en toute liberté. Non, extrêmement drôle. Et alors, il y a de véritables tirades. D'ailleurs, je me demande si c'était pas Camélia particulièrement difficile, notamment d'apprendre le texte, parce que c'est pas un jeu de répliques avec.
Ne réponds pas à cette question stupide. Demander si c'est difficile d'apprendre un texte alors que c'est notre métier de base.
Oui, mais c'est avec des tirades. Encore une fois, le texte est long.
C'était pas d'apprendre le texte. Moi, depuis gamine, j'adore apprendre des textes, connaître des choses par cœur.
De le dire,
bien sûr, de le dire comme il faut, comme disait Daniel il y a quelques jours. Ça faisait aussi que, alors les moments en fait où on se marrait, c'était le matin dans la loge où on s'habillait, on se maquillait, on se faisait coiffer, machin, entre midi et deux à la pause déj, et puis le soir quand on filait, quand l'un devait pas aller au théâtre ou à machin. Mais finalement, sur le plateau, c'est vrai qu'on se devait en fait d'avoir une espèce de concentration, de samouraï permanente, de rigueur, parce que justement, le film est sur l'éloquence. Le film s'appelle Le Brio et il est justement sur cet apprentissage-là. Donc c'est nécessaire.
Et l'humour est plutôt sur le côté pince sans rire et les rapports entre les deux et les vannes qui sont faites.
Sur les joutes verbales qu'il y a entre les deux, bien sûr.
C'est ça. Il vous appelle Fatima, il vous donne tous les noms possibles et imaginables comme pour vous provoquer, parce que c'est un provocateur. Et on le voit d'ailleurs parce qu'il l'est avec tout le monde. Il provoque aussi bien une assemblée de centaines d'étudiants que cette dame qui poliment ramasse la crotte de son chien en se promenant seul le soir, ou que son propre recteur ou président de faculté. C'est ça aussi le brio de ce professeur, c'est de vouloir faire des joutes permanentes et de se frotter à tout le monde.
C'est son métier. J'ai assisté un jour à une remise de prix chez les étudiants de droit. C'est leur truc à eux, quoi. Ils se font des blagues, on comprend rien. Ça, c'est très perché. ils vont chercher, comme la dame tout à l'heure, quoi, au vide, machin. Tu vois, c'est des trucs. Il faut vraiment,
avoir le bagage pour comprendre.
Ouais, il faut comprendre. Sinon, c'est un peu comme quand on vient avec vous, votre humour. Il faut comprendre. Ouais.
Ouais, il faut venir sans bagage. C'est ça l'inverse.
Donc tout ça est extrêmement. Mais effectivement, donc ils ont tous les deux, ils ont cet humour-là. Non, qu'est-ce que je sais plus, parce que je dis
rien,
des bêtises,
rien,
tout ça,
non,
pour
non,
faire
on peut,
rire.
Je
veux fou.
Non,
tout ça,
je pense que
je sais plus.
Daniel,
ce que je
Daniel, je pense qu'il faut vraiment.
Monsieur Auteuil.
il faut encourager le public à aller voir ce film.
Il faut pas l'encourager.
Si,
le public fait ce qu'il veut.
Mais oui,
il est libre. Alors que vous, non.
Mais non.
Vous êtes obligé de dire que c'est drôle.
Je les encourage à voir ce film parce que c'est le dernier film. On voit que vous êtes arrivé au bout du rouleau, dernier film que vous allez faire. Vous n'avez plus de mémoire, vous ne trouvez plus vos mots. Il n'a plus d'âge, Daniel Auteuil. On l'a tous vu. On était petits. Il était déjà là.
Non, ce que je veux dire, en tout cas, ceux qui ne m'ont pas vu depuis Les Sous-doués, ça va leur faire un truc.
France Inter, les meilleurs moments de la bande originale. Avec Nagui.
Camélia Jordana et Daniel Auteuil dans Le Brio, un film réalisé par Yvan Attal. Voici Tanguy Pasturo qui va traiter l'info. Tanguy, les députés donc de La République En Marche sont fatigués.
Oui, ça fait juste 6 mois qu'ils bossent. Ils en sont à 400 trimestres de cotisation de moins que Charles Aznavour. Et ils sont déjà claqués, les loulous. Il faut dire que le rythme est intense, car Macron, le Speedy Gonzalez du Touquet, réforme tout. Le travail, la fac, la retraite, l'assurance chômage. C'est pas un mec, c'est un flacon de blanco. Tout ce qui a été fait avant, il efface. Et dans 8 mois, Stéphane Bern dira dans Secret d'Histoire que la France fut créée le 14 mai 2017. Même si, ajoutera-t-il, 1981 fut une année charnière, car c'est celle de la création des vérandas Akena. Bref, c'est vraiment plus. À l'Assemblée, ça bosse H24, jour et nuit. Il y a plus d'activités humaines là-dedans que sur un an de tournage du site orgiecheck.com. Le matin, 9h, les députés arrivent, passent par le stand que les anciens médecins de l'équipe Festina ont monté devant l'Assemblée. Les types leur mettent un entonnoir dans le gosier. Ils font couler un mélange EPO, Ristretto, Guarana, Poppers, plus une goutte du sang de Macron. Et ils votent jusqu'à 8h le lendemain matin. Ils n'en peuvent plus. Ils sont dans le même état d'épuisement que Manuel Valls s'il lisait les commentaires sur lui que les gens laissent sur Internet. Forcément, Macron n'a pris que des bleu bites. Il a signé tous les glandus qui n'avaient pas envie d'attendre les journées du patrimoine pour visiter l'Assemblée. Et là, les mecs découvrent qu'il faut bûcher et ils pleurent. Moi, ça m'a fait la même chose ici. Je me suis dit, Nagui, c'est un méridional. Ces gens-là sont nonchalants. On va se foutre sur un banc en regardant les plus jeunes jouer aux boules. Résultat, je manquais 5 émissions par semaine et lui 127. Un enfer. Donc les néo-députés La République En Marche travaillent même la nuit. Hein, ils ont la vie de David Guetta, mais sans l'entrée gratuite en boîte. Ils ont cru, parce qu'ils étaient fans de Macron, qu'ils étaient comme Macron, capables de pioncer 2 heures par nuit, de faire un tennis en répondant à leurs textos et de lancer la balle à leur chien à plus de 1200 mètres. Macron, c'est le fils qu'aurait pu avoir Pablo Escobar et Wonder Woman. Mais c'est toute la différence entre une idole et son public. Moi, quand j'étais petit, j'étais fan de Madonna. Une fois, j'ai jeté mon slip dans la classe en criant « Bonsoir Paris, est-ce que vous êtes chaud ?» en me cambrant. Bah, à part le maître qui avait l'air content, il a sorti des bonbons. Ça a été un bide. Macron est indépassable, il est plus haut que la voix de Christophe Willem.
Et alors, certains simples adhérents même de La République En Marche sont eux aussi dépités.
Oui, il y en a 100 qui ont quitté le parti en même temps, hein, comme dans une chorégraphie de Kamel Wally, pour protester contre le fait que Christophe Castaner soit seul candidat à la présidence du truc. Hein, on avait le choix entre voter Christophe Castaner ou Castaner Christophe. C'était comme la remise des JO à la ville de Paris, mais sans Anne Hidalgo au sortir du cours Florent en train de mimer la surprise. Alors qu'un parti politique, c'est tout sauf démocratique. C'est juste un dominant qui dit « voilà, c'est mon tour, merci, au revoir », comme chez les loups. La seule différence, c'est que Castaner n'a pas fait pipi partout autour de la salle. À la place, il a fait un discours, c'est moins sympa, mais enfin, les politiques adorent parler. Dès qu'il y a élection, c'est biaisé. Regardez Miss France, on voit le clip de Miss Tahiti au soleil sur la plage avec des fleurs. C'est superbe, ils ont noyé juste avant Antoine et sa barbe dégueu dans une crique. Puis on nous présente celui de Miss Bretagne, où la petite pose sous la flotte avec en arrière-plan quatre pêcheurs de moules qui ont l'air moins frais que mieux sec. Forcément, les gens votent Tahiti. De toute façon, chef de la République en marche, c'est comme une Wonderbox week-end en roulotte. Ça ressemble à un cadeau, mais c'est pas un cadeau. Une fois l'effet Macron passé, le parti va se vider, telle une poupée gonflable sur laquelle se serait assis Teddy Riner. Ça tient sur Macron, comme le FN sans Le Pen, c'est Podzob. Si Marine s'en va, il reste qui ? Nicolas Bay, David Rachline sont tellement peu connus qu'ils pourraient bosser dans le gouvernement d'Edouard Philippe. Heureusement pour les En Marche au bout du rouleau, c'est-à-dire tous sauf Macron et Brigitte, puisqu'à chaque French Kiss, elle récolte la salive divine aux 12 vitamines qui la boostent pour 72 heures. Le parti Lance nous dit BFM TV, donc il faut se méfier, hein, une cellule de soutien intitulée Care. Hein. Donc le principe est simple, le député claqué va voir la cellule, dit cette nuit, c'est-à-dire de 8h02 à 8h17, j'ai rêvé que je bossais pour Jean-Marc Ayrault, on foutait rien, c'était génial. À un moment, Ayrault a juste sorti un mastermind, on a fait une partie, aidez-moi, je veux redevenir coiffeur comme il y a 7 mois. Et là, le groupe Care lui tend une photo de Macron en lui disant « Mon bichon, sans lui, tu serais peut-être au chômage, ou pire, au Parti Socialiste. Tu ne peux pas être lui, personne ne le peut. Tu peux juste tenter de lui ressembler. Il suffit de ne jamais t'endormir, comme dans Freddy les griffes de la nuit. Allez, plus que 4 ans et demi, courage !»
Merci Tanguy Bonto.
La bande originale, le best-of.
Voici Moriarty avec cette reprise qu'il nous offre. Reprise d'une chanson de Bob Dylan, « One More Cup of Coffee ». Et c'est en bas.
One more cup of coffee before I go.
Les meilleurs moments de la bande originale avec Nagui.
Première collaboration avec Yvan Attal pour l'un comme pour l'autre. Vous aviez quoi dans la case Yvan Attal, Camilla Jordana? Quand vous avez su que vous avez tourné avec lui, vous pensiez à l'acteur, au réalisateur?
Les deux, en fait, depuis le lycée. C'est au lycée que j'ai découvert ses films. Ma femme est une actrice, ouais. Ils se marièrent, tout ça, tout ça.
Et parce qu'il faut rappeler, parce que je pense qu'il nous écoute, qu'Yvan est très très vieux.
Oui, je vois. Mais je vois.
C'est pour la guerre, le printemps,
très,
la
très vieux. Yvan est très très vieux. Moi, il fait trop jeune comme ça, mais non, c'est un vieux.
Évidemment, d'où cette belle carrière.
Oui, c'est ça. Et donc, c'était au lycée, mais quand elle était toute petite.
Avec tout, vous avez vu tous ces films en noir et blanc et dans le muet aussi, le parce muet, qu'il a le commencé muet, dans le muet.
Ils ont un tas de muet, ça a ouais, commencé avec ça. Ça.
Et vous, Daniel, vous aviez.
Moi, c'est pareil.
J'étais jeune.
Non. Ça a toujours été un acteur intéressant, curieux, qui avait des choix, qui faisait des choix difficiles et qui avait une vraie qui a une vraie personnalité. Un très bon acteur et l'idée de un jour de faire un film avec lui m'avait déjà traversé l'esprit. Je lui avais même suggéré. Donc, on a attendu sûrement que le sujet se présente. Mais il est en tant que metteur en scène fidèle à ce qu'il est en tant qu'homme et en tant qu'acteur. Quoi. Donc
bienveillant.
Bienveillant. En tout cas, très vif. La bienveillance, bien sûr qu'il est pas malveillant, mais il a un vrai regard.
Ah bah, avec tous les réalisateurs que vous avez connus dans votre jeune carrière, oui. Tous ces réalisateurs, vous avez dû en voir de toutes les couleurs, j'imagine, non?
Des vertes et des pas mûres. Non, c'est déjà... c'est ce rouge devant moi. Oui, j'en ai vu, mais dans l'ensemble...
Des autoritaires, des...
Non, des quoi non, plutôt dans l'ensemble, quand même, plutôt dans l'ensemble des bons, parce que je veux dire, des autoritaires, pas forcément. Ceux qui avaient le plus d'expérience, le plus de choses à dire, n'ont pas d'autorité particulière. Il y a une espèce de d'autorité naturelle qui n'a pas besoin de s'exprimer. Quoi. Voilà. J'ai rencontré beaucoup de gens. Ce qui compte chez un metteur en scène, c'est d'avoir un point de vue, un regard. Et c'est quelque chose qu'il a à la fois en tant qu'acteur, en tant qu'homme, en tant que metteur en scène. Donc c'est très agréable de travailler avec lui.
Parlons un tout petit peu de...
De votre
côté réalisatrice, Camilla Jordana. Vous réalisez?
Oh là là. Réalisatrice, ça.
Vous avez réalisé l'équipe de...
Non, de Lost.
Bah oui.
Oui, non, mais si, c'est vrai.
Vos clips.
Non, mais c'est drôle à entendre. oui. En fait, non, mais c'est du fait de passer de plus en plus de temps sur des plateaux de tournage.
Vous apprenez, ça vous donne envie.
Non, c'est surtout que je vois, en fait, et que j'ai de plus en plus de gourmandise et de curiosité envers cette branche-là. Et ça faisait depuis très longtemps en fait que je voulais m'essayer à la réalisation. Et voilà, on me parlait de court-métrage et tout ça. Et
oui. Elle a 10 ans.
France Inter, la bande originale, le best-of avec Nagui.
Nous passons du tout à son contraire, du brio ouais, à Daniel Morin.
Support. Ça s'est entendu ou pas?
Non.
Ça va alors. Le dossier économie dans le secteur de l'audiovisuel public français est toujours aussi brûlant. Après les fuites provenant du ministère de la Culture, c'est au tour de la patronne de France Télé, Delphine Ernotte, de balancer ses idées. Elle veut lancer un Netflix à la française, voire à l'européenne, une plateforme pour rivaliser avec le géant américain.
Stop! Arrêtez tout!
Qu'est-ce qui vous arrive, François?
Mais enfin, espèce de malotru, tu oublies le principal!
Quoi?
Eh bien, aujourd'hui, mardi 21 novembre, c'est l'anniversaire de... De Daniel Guichard.
Dans son vieux, par-dessus
Daniel Guichard, une légende de la chanson française. Écoute-moi ça. Quelle intensité, quelle tristesse. Mais en même temps, quelle patate, quelle joie de vivre. Mon vieux, la plus belle chanson du monde sur les vieux.
Et à part ça?
À part ça, ça va.
Ok, bonjour Néthéo. Ah oui, la proposition de Delphine Ernotte sur Netflix à la française. Eh bien, c'est une excellente idée. Très bonne idée. Une idée tellement bonne qu'elle est revenue me hanter dans mes rêves. Dans mon rêve, je regardais ma télé éteinte. Quand d'un seul coup, mon poste s'est allumé. Ça y est, le Netflix européen de Madame Delphine avait été lancé. Et c'était la guerre avec le Netflix américain. Les promos s'enchaînaient en rivalisant de promesses aussi folles qu'alléchantes les unes que les autres. Avec Netflix Original, vivez les séries télé comme jamais auparavant.
Pour 10 euros par mois, découvrez et dégustez le meilleur du top. Daredevil, Jessica Jones, Orange is the New Black, House of Cards, Marco Polo, Sense8, Narcos, The Punisher, and many, many more. C'est vrai que ça tabasse. Ça envoie le Netflix américain.
Stop ! Arrêtez tout !
Quoi encore ?
Mais il est où, l'hommage à Daniel Guichard ? Hein ? Il est où ?
Oh non, pas ça, non.
Oh, le gitan, ma chanson préférée. Quel rythme, quelle élégance, quel tempo. Le gitan, la meilleure chanson du monde sur les manouches.
Sinon, à part ça
À part ça, ça va.
Dans mon rêve perturbé, on en était à l'offre Netflix. Une offre de dingue. Quand d'un seul coup déboule la promo du Netflix à la française, voire à l'européenne.
Avec Netflix France, Netflix Europe, vivez les séries télé comme jamais auparavant. Grâce à votre redevance seulement, découvrez et dégustez le meilleur du top. Joséphine Ange Gardien, Loulou la Brocante, Hélène et les Garçons, Plus belle la vie, Navarro, Julie Lescaut et en exclusivité, l'intégralité de la série de légendes berlinoises. Eric, Yaya, Wunderbar, Yavol, Miam Miam.
Ah ben voilà, c'est différent, mais au fond, ah pourquoi pas si c'est bon comme ça. Ah, qu'est-ce qui se passe ?
Ta gueule !
Comment ça, ta gueule ?
C'est la suite de mon hommage à Daniel Guichard.
Oh non !
Quelle émotion, quelle profondeur ! C'est tellement beau que ça donne envie de crever ! Faut pas en pleurer comme ça, hein. La plus belle chanson du monde sur le chialage !
Et à part ça ?
À part ça, ça va !
Bon, ok, j'ai compris, hein. Tant pis pour Netflix. Bon anniversaire, Daniel Guichard.
Quand même !
Bon, allez, à demain.
Merci, Daniel.
Le meilleur moment de la bande originale.
Non, Mathieu, c'est pas moi qui ai commis ça, attention. Moi j'ai bien ri, mais je saurais pas le faire.
Il y a trop de Daniel autour de cette table. Daniel Morin.
Il y en a deux. C'est vrai que
il y a trop de Daniel.
Et Daniel Guichard.
On déborde. Daniel Auteuil, justement, vous êtes donc à l'affiche du Brio Vivante. Et vous serez à l'affiche de Rémi sans famille, film qui.
Qui relate donc les aventures de Rémi sans famille,
c'est ça. Hector Malo, quel est votre rôle dans le film ?
Le vieux. Le vieux qui a le sang sur l'épaule.
On attend, hein, c'est en septembre prochain. Vous l'avez déjà tourné ou pas ?
Oui, c'est tourné déjà.
C'est déjà tourné, d'accord. Avec Ludivine Sagnier et Virginie Louvrien, est-ce que les planches de théâtre sur lesquelles vous avez tant brillé. Non, vraiment.
Vraiment. Du décor.
Sincèrement, c'était formidable. C'est formidable. Et on sent que vous aimez ça. Même si c'est un exercice qui doit être astreignant d'être tous les soirs au
vous
théâtre.
Vous dites ça par rapport à quoi ?
Au physique.
C'est typique.
Eh bien, il y a une question ?
Oui.
Quelle est-elle ?
Allez-vous remonter sur les planches ?
Oui, sûrement. Oui, sûrement.
Sur quel projet ?
Eh bien, les projets. J'ai un petit projet comme ça d'aller jouer Le Malade Imaginaire en 2019. Oui.
Que vous allez mettre en scène aussi, parce que vous aviez mis en scène la pièce que vous avez faite.
Mais il y a ton film aussi, c'est quand ton film ?
Oui, puis je suis en montage d'un film que j'ai réalisé aussi, voilà. Mais bon, on est là
dans
pour parler
du...
Oui, oui, je joue. Ah oui, mais c'est la séquence projet, c'est ça ?
Oui.
Ah oui, c'est pour ça que vous êtes obligé de parler des projets. Moi, fais les choses à la fois.
Votre film sort quand ?
Le 25, je reviendrai le 25 avril. Messieurs auront le temps de préparer des sketchs drôles, vous le temps de préparer des questions captivantes.
Le titre de votre film ?
Écoutez, je le cherche.
Non.
Non, le titre, pour l'instant, on le dit pas, pour l'instant. Non, je sais pas encore, je cherche le titre.
C'est pas possible, vous avez pas tourné.
Je vous le dis, que je cherche le titre du film. Oh! Ça peut arriver, ces choses-là. On fait des choses à l'envers.
Vous avez remarqué que personne ne me défend autour de cette table. C'est-à-dire que depuis le début, il m'envoie des mandales, vous en foutez.
C'est de l'affection.
Mais
c'est
depuis tout à l'heure, vous vous cherchez, voilà, qui aime bien, châtie bien. On assiste assez heureux à cette scène.
C'est
comme ça. Ça nous fait tellement plaisir.
Oui. C'est ça, c'est surtout ça.
C'est quand même un peu comme dans les cours de récré, quoi.
C'est ça.
Rends-moi ma banane.
Je fais des excuses après sortir.
Ça va trop loin. Désolé pour Daniel Auteuil, qui s'est senti désolé d'interrompre Nagui. Franchement, Daniel, nous on approuve. Hein, et pour être tout à fait honnête, ça nous fait vraiment du bien. Désolé pour nos auditeurs racistes et logiquement fans de Daniel Auteuil, qui ont été déçus d'apprendre que son personnage dans le film ne l'était pas. C'est vrai, c'est décevant, mais attendez, je vous rassure, à hors antenne, Daniel Auteuil est bien un facho à la pause. Il nous a chanté Maréchal, nous voilà en entier, la main sur le cœur. Désolé.
Et il n'aime pas l'animateur arabe de cette émission, t'as remarqué ?
Absolument, il l'a même giflé. Désolé pour David Bowie, qui de là-haut m'a signifié à la pause qu'il refusait
radicalement, définitivement d'être associé à Daniel Auteuil. J'ai tout tenté, il n'y a pas moyen.
Le meilleur de la bande originale, c'est fini pour aujourd'hui, mais on revient l'année prochaine, autrement dit lundi. En attendant, c'est l'heure des carnets de campagne avec Philippe Bertrand. Bon week-end et bonne fête de fin d'année à toutes et à tous.